Aliénation morale du génie. On peut observer chez une certaine catégorie de grands esprits un spectacle pénible, parfois épouvantable. Leurs moments les plus féconds, leur vol en haut et dans le lointain ne semblent pas être conformes à l'ensemble de leur constitution et ont dépassé la force d'une façon ou d'une autre, de sorte qu'il leur reste toujours une tare et qu'il en résulte à la longue une défectuosité de la machine, laquelle se manifeste encore chez les natures d'une si haute intellectualité dont il est question ici, dans toutes sortes de symptômes moraux et intellectuels, beaucoup plus régulièrement que dans des états de maladie corporelle. Ces côtés incompréhensibles de leur nature, ce qu'ils ont de craintif, de vaniteux, de haineux, d'envieux, de rétrécis et de rétrécissants, et qui se manifestent soudain chez eux, ce qu'il y a de trop personnel et de contraint dans des natures comme celles de Rousseau et de Schopenhauer, pourrait très bien être les conséquences d'une maladie de cœur périodique. Celle-ci cependant la conséquence d'une maladie des nerfs, et celle-ci enfin la conséquence de... Tant que le génie habite en nous, nous sommes pleins de hardiesse, nous sommes comme fous, et nous nous soucions peu de la santé, de la vie et de l'honneur. Nous traversons le jour de notre vol plus libre qu'un aigle, et dans l'obscurité, nous nous sentons plus en sécurité qu'un hibou. Mais soudain le génie nous abandonne et aussitôt une crainte profonde nous envahit. Nous ne nous comprenons plus nous-mêmes, nous souffrons de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous n'avons pas vécu. C'est comme si nous étions sous des rochers nus avant la tempête, et nous sommes en même temps comme de pitoyables âmes d'enfants qui ont peur d'un bruissement et d'une ombre. Les trois quarts de ce qui se fait de mal sur la terre se fait par crainte, et cela est avant tout un phénomène physiologique. Savez-vous aussi ce que vous voulez? N'avez-vous jamais été tourmenté par la crainte de ne pas être apte du tout à reconnaître ce qui est vrai? La crainte que votre sens est encore trop émoussé et votre subtilité visuelle encore beaucoup trop grossière? Si vous pouviez remarquer une fois quelle volonté domine derrière votre vision, par exemple, comme hier, vous vouliez voir plus qu'un autre, aujourd'hui autrement que cet autre. Ou bien, comme dès l'abord vous espériez avoir quelque chose qui se trouve en conformité ou en opposition avec ce que l'on a cru remarquer jusqu'à présent. Oh, honteuses envies! Comme vous êtes souvent à l'affût de l'effet violent, ou encore de ce qui tranquillise. Puis que vous voici fatigué, toujours plein de pressentiments secrets sur la façon dont la vérité devrait être conformée pour que vous, justement vous, puissiez l'accepter. Ou bien croyez-vous qu'aujourd'hui, parce que vous avez gelé et que vous êtes maintenant sec comme un matin clair en hiver et que rien ne vous oppresse le cœur, croyez-vous que vos yeux sont meilleurs? Ne faut-il pas de la chaleur et de l'enthousiasme pour rendre justice à une chose de la pensée? Et c'est cela que l'on appelle voir, comme s'il vous était possible d'avoir avec les choses de la pensée des rapports différents de ceux que vous avez avec les hommes. Il y a dans ces relations la même moralité, la même honorabilité, la même arrière-pensée, le même relâchement, la même crainte, il y a là tout votre moi aimable et haïssable. Vos affaiblissements physiques prêteront aux choses des couleurs ternes, vos fièvres en feront des monstres, votre matin n'éclaire-t-il pas autrement les choses que votre soir? Ne craignez-vous pas de retrouver dans la caverne de tout ce qui est la connaissance votre propre fantôme, filet où s'enveloppe la vérité pour se déguiser devant vous? N'est-ce pas une comédie épouvantable où vous voulez jouer si étourdiment votre rôle?